Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Bienvenue dans ce deuxième épisode de Crampons Maudits. Et retour en 1994, direction le Giant Stadium à NYC, New York City, vous l'avez compris. 55e minute, l'Irlande mène 1-0 face à l'Italie de Roberto Baggio. Dans le stade, 76 000 spectateurs, mais surtout des millions de téléspectateurs en mondovision devant leur télé. Des millions de téléspectateurs dont font partie ces 24 gars qui regardent le match dans un pub à Loughlin Island, un village de 256 âmes à peu près, perdu dans la campagne nord-irlandaise. Et c'est à cette 55e minute que deux hommes entrent dans le bar, cagoulés et armés de fusils d'assaut.
Crampons maudits. Retour sur quelques-uns des héros oubliés de la Coupe du Monde.
Mathias Silva, Byron Morillo, Finaille, la Corée du Nord,
Ali Benasser,
Edouard Salas.
Crampons maudits. Épisode 2, le massacre de la World Cup. Une histoire racontée par Pierre-Philippe Berson avec la voix de Félix Moati.
Aidan O'Toole déteste le vent, surtout celui qui vient de la mer d'Irlande. Il est froid et âpre. Et ce vent, il a la mauvaise idée de secouer l'antenne râteau fixée sur le toit de son pub, ce qui brouille l'image du téléviseur installé derrière le bar, légèrement en hauteur, orienté vers la porte d'entrée. Les clients se plaignent souvent, mais ils ne peuvent pas aller ailleurs. Le pub d'Aidan O'Toole, de Hayes Bar, est le seul de Loughlin Island, un hameau planté au milieu des collines d'Irlande du Nord. Ce 18 juin 1994, par bonheur, le vent s'est calmé. La retransmission sur la chaîne RTE One est fluide. Les clients d'Aidan vont pouvoir sereinement regarder l'événement télé de l'année, le match Air Italie, le tout premier de la sélection au trèfle dans une Coupe du Monde. Tous les habitués sont là. Dan, Malcolm, Eamon. Certains accoudés depuis 18 heures. Ils sont 24 à remplir la pièce. Quelques minutes avant le début de la rencontre, Aidan O'Toole sert une nouvelle tournée de Guinness, puis monte légèrement le volume du poste. Au même moment, au Giant Stadium de New York, le coup d'envoi est donné. La présence de l'Irlande à ce mondial 1994 est déjà une victoire, tant la qualification a été laborieuse. Le match décisif a lieu le 17 novembre 1993, à l'occasion de la dernière journée des éliminatoires. Comme la France face à la Bulgarie, la sélection au trèfle n'a besoin que d'un nul pour se qualifier. Alors que les Bleus sombrent au Parc des Princes, les hommes en vert se déplacent dans une enceinte quadrillée par l'armée. Ils jouent au Windsor Park de Belfast pour affronter la sélection d'Irlande du Nord, le frère ennemi. Ray Houghton, le milieu de terrain irlandais, se souvient que pour se rendre au stade, ils avaient pris un bus escorté par des militaires. Des hommes en armes étaient même montés et leur avaient demandé de fermer les rideaux et de se regrouper dans l'allée centrale du bus. Personne ne devait rester près d'une fenêtre parce qu'ils risquaient de se faire caillasser. À l'arrivée devant Windsor Park, il se souvient aussi que des gamins qui devaient avoir à peine 10 ou 12 ans avaient pointé vers eux des pistolets en bois. Ils avaient des visages de haine. C'était un truc effrayant, dira-t-il quelques années après.
The game is on. And the Republic attack the railway end at Windsor Park.
Ce truc effrayant, c'est ce qu'on appelle le conflit nord-irlandais. Une guerre fratricide entre catholiques, partisans d'un rattachement à l'air, et protestants unionistes, défenseurs de leur appartenance au Royaume-Uni. L'affrontement dure depuis 1970. En 1993, rien n'a progressé, sauf l'ampleur d'un désastre qui a fait plus de 3000 morts. Dans ce contexte explosif, une partie de football entre les deux Irlandes fait figure de détonateur. Au moindre incident, le stade peut s'embraser. Jim Gracie, journaliste au Belfast Telegraph, racontera: « C'est le match le plus tendu auquel j'ai assisté. Il y avait des militaires partout, même en tribune de presse et à l'intérieur des vestiaires. Finalement, la rencontre se termine par un nul, un partout, qui soulage tout le monde. Les Nord-Irlandais, déjà éliminés, gardent la face. Leurs voisins du Sud décrochent leur green card pour l'Amérique. Chacun rentre chez soi, content d'être encore en vie. Tony Cascarino, le numéro 9 de la sélection irlandaise, se souvient qu'ils avaient des consignes très claires. Dès la fin du match, faut vite filer à la douche et se dépêcher de quitter le stade pour rentrer à Dublin.
Means a goal for the Northern Ireland, but the Republic of Ireland players believe they've qualified. And here's how it is in Spain.
Sept mois plus tard, sur le parking du stade des Giants de New York, l'ambiance est nettement plus décontractée. Chant gaélique, violon et peinte de brune, l'avant-match a des allures de soirée de la Saint-Patrick. Les Irlandais ont l'impression de jouer à domicile. Officiellement, il ne devait y avoir que 10 000 supporters irlandais. Et si les Italiens avaient acheté 50 000 places, en fait, les Irlandais avaient racheté tous ces billets au marché noir. Portés par cet engouement, les Verts appliquent leur tactique rudimentaire, faite de grandes chiches vers l'avant. Les défenseurs servent de rampe de lancement, les attaquants jouent des coudes, et les milieux de terrain lèvent les yeux pour suivre les ogives. Une stratégie qui se prête bien au lieu. Les stades de football américains étaient plus courts que les terrains classiques, et ces dimensions étaient parfaites pour les Verts. Comme ils jouaient de façon compacte, regroupés, en bouchant les espaces, ils étaient favorisés. Les Italiens sont incapables de développer leur jeu. Et à la 11e minute, à la suite d'un mauvais dégagement de Roberto Donadoni, Ray Houghton reprend de voler un ballon égaré devant la surface et surprend Gianluca Pagliuca. 1-0 pour l'Irlande. Le score n'évolue pas jusqu'à la mi-temps.
Explosion de joie dans un pub irlandais de New York. Nous sommes à la 12e minute du match Italie-Air et le milieu de terrain irlandais Ray Houghton vient de marquer un but qui s'avérera décisif.
À Loughton Island, on profite de la pause pour recharger les gobelets. Là-bas, la moyenne pendant un match de foot, c'est une pinte par quart d'heure. Les habitués se resservent, papotent. Barney Green, 87 ans, est le plus superstitieux. Pour ce match, il a mis son costume porte-bonheur. On le félicite, lui dit qu'il a bien fait. Adrian Rogan, 34 ans, raconte ses vacances. Le matin même, il était encore à Majorque, avec sa femme et ses deux enfants. C'est la première fois qu'il sortait d'Irlande du Nord. La première fois aussi qu'il prenait l'avion. Malin, il avait anticipé la date de son retour pour voir le match à la maison. À New York, la partie reprend. Dans le pub, les conversations s'estompent et tous les regards convergent de nouveau vers le téléviseur. Arrive la 55e minute de jeu. Dans la rue d'abord, des détonations. Ensuite, une porte qui claque, comme un coup de pied. Et là... une pluie de coups de feu. Aussitôt, Aiden O'Toole, le proprio des lieux, se couche à terre, derrière son bar. Puis des hurlements, du verre qui vole en éclats, des cris. Quand il se redresse, il ne voit qu'une mare de sang. L'attaque n'a duré qu'une poignée de secondes. Il appelle très vite les secours. Mais pour 6 clients, c'est déjà trop tard. Ils sont morts sur le coup. Barney et Adrian font partie des victimes. La nouvelle n'est pas parvenue à New York au moment du coup de sifflet final. Les Irlandais ont tenu le score, 1-0, et viennent d'écrire face aux archi-favoris italiens la plus glorieuse page de l'histoire de leur football. Jim Gracey s'excite en tribune de presse pour rendre son article. J'étais hyper enthousiaste. Je pensais écrire un papier qui irait en une et entrerait dans l'histoire du Belfast Telegraph. J'appelle ma rédaction, euphorique. Eux me disent « Laisse tomber Jim, il s'est passé un événement horrible. » J'étais abasourdi. Les joueurs mettent plus de temps à l'apprendre. Cascarino et ses coéquipiers squattent la pelouse, dansent, hurlent leur joie. Dans le vestiaire, ils chantent comme des fous. Mais quand un des joueurs revient après avoir été appelé pour un test urinaire, ils découvrent alors le visage abattu de leur coéquipier. On vient de lui apprendre la nouvelle de la tuerie de Loughton Island. Subitement, les visages se ferment. L'enthousiasme s'envole. Dans l'avion du retour, vers le camp de base d'Orlando, c'est une ambiance de défaite. Le staff avait prévu une petite fête avec des bouteilles de champagne, mais aucune n'a été débouchée.
Slaughter in Loughton Island as loyalist terrorists shoot 11 people in the back as they watch the World Cup on television.
I just remember Mummy saying to us that bad man had come into the pub and had shot 6 people and Daddy was dead.
L'attaque est revendiquée par l'Ulster Volunteer Force, l'UVF, un groupe paramilitaire unioniste opposé au rattachement de l'Irlande du Nord à l'air. À leurs yeux, l'engouement autour de la Coupe du Monde et, par solidarité celtique, de l'équipe d'Irlande, contrarie leurs affaires, car il rapproche dangereusement les deux nations et les deux communautés religieuses. Loughin Island est une commune mixte, sans histoire pourtant, située à moins de 30 km de Belfast, la capitale. Ici, il n'y a jamais eu d'attentat ou d'altercation entre les 256 habitants. Dans son communiqué, l'UVF tente de justifier l'attaque en expliquant qu'une réunion de républicains irlandais se tenait dans le pub d'Aidan O'Toole au moment du match. Il parle aussi de tirs en représailles à une attaque menée quelque temps auparavant par l'INLA, l'armée de libération nationale irlandaise, sur des protestants. Sauf que jamais la police n'a réussi à trouver de preuves démontrant les liens entre un quelconque groupe paramilitaire républicain et The Hyde Bar. Selon Trevor Burney, journaliste nord-irlandais indépendant ayant travaillé sur le dossier, si les deux tireurs de l'UVF ont choisi ce pub, c'est pour des questions techniques et logistiques bien précises. Le pub et le village sont isolés, mais suffisamment proches de grands axes routiers pour prendre la fuite rapidement. Et aussi parce qu'ils savaient que les supporters présents pour soutenir l'Irlande seraient catholiques. Les auteurs de l'attaque ne voulaient pas de victimes protestantes. Et ce soir-là, il n'y avait que des catholiques dans le pub. On est bien loin d'un malheureux hasard. Mais comment ont-ils su ? Certainement grâce à des contacts au sein de la police nord-irlandaise, imagine le journaliste.
Un groupuscule protestant clandestin, la force des volontaires de l'Ulster, a revendiqué cet attentat aveugle. C'était des gens comme vous et moi qui assistaient à un match de foot dans un pub. Personne ne leur demandait leur religion à l'entrée. Le seul but de cet attentat était de tuer des catholiques.
Des complicités vite soulevées par les familles des victimes et confirmées dans une certaine mesure par le médiateur de police pour l'Irlande du Nord dans les conclusions de son rapport publié en 2009. Un rapport pour lequel Niall Murphy, l'avocat des familles de victimes, s'est battu. On y apprend que, par exemple, les armes utilisées étaient des pistolets automatiques VZ-50 importés d'Afrique du Sud par les autorités britanniques et ce afin d'armer les milices protestantes. Les forces de l'ordre ont aussi volontairement négligé des éléments clés de l'enquête, ce qui explique pourquoi aujourd'hui, près de 30 ans après les faits, on ne sait toujours pas qui sont les assassins. Alors que plus de 20 personnes ont été arrêtées pour être interrogées dans le cadre de l'enquête. Mais, contrairement à ce que recherchaient les tueurs de l'UVF, le massacre de la Coupe du Monde va en fait amorcer un virage vers la paix. Chaque Irlandais se souvient de ce qu'il faisait ce jour-là. Ce match était un événement sportif tellement retentissant. Et personne n'a compris pourquoi on s'est attaqué à ces gens. Aucun homme présent dans le pub n'était engagé dans le conflit. Il n'y avait pas de miliciens pro-catholiques ou pro-protestants. Ce sont des victimes innocentes. En Irlande, l'émotion est énorme. Le pape, la reine d'Angleterre et Bill Clinton envoient des messages de soutien à Loughin Island. Au sein de la sélection se forme une union sacrée entre les joueurs irlandais et leur sélectionneur, anglais, Jack Charlton, frère de Bobby. Ils parviennent à sortir de la poule avant de tomber en 8e contre les Pays-Bas, contre lesquels ils perdent 2-0. Quelques semaines après la Coupe du Monde, le 31 août 1994, l'UVF et son ennemi juré, l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, décrètent un cessez-le-feu historique. Cette décision marque le point de départ du processus de paix. Après des années de négociations, toutes les opérations militaires britanniques sont officiellement suspendues en août 2007, mettant fin à 38 années de violence.
Au lendemain de l'annonce par l'IRA de la fin de la lutte armée en Irlande du Nord, la population attend maintenant de voir ce qui va vraiment se passer. Depuis 35 ans, catholiques et protestants s'opposent sur l'avenir de ce territoire. Des générations entières se sont divisées sur ce conflit.
Quant à Loughin Island, Aidan O'Toole a rouvert son pub et continue de diffuser des matchs de football sur son nouvel écran plat numérique Samsung. Maintenant, l'image est toujours nette, même quand le vent souffle.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.